Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Mesdames, messieurs, préparez-vous pour un autre décollage vers le pays de l'information avec Sébastien Boucher qui est là avec moi en studio.
Allô,
en
allô.
Fait, dans son studio. Salut Sébastien, ça va bien?
Très bien, et toi Simon?
Oui, absolument. Je salue les gens qui sont partout à travers le pays, les gens qui nous écoutent par exemple sur la côte ouest, sur la côte du Pacifique, à Radio Victoria entre autres, jusqu'à l'autre bout du continent complètement, l'autre bout du pays, à Chéticamp par exemple, en Nouvelle-Écosse. On nous écoute à Clare également, à Sifa, là-bas. Alors, où que vous soyez, qui que vous soyez, salutations, bienvenue à notre émission. Ça va bien, Sébastien? Oui.
Ça va vraiment bien. Et puis, toujours fier d'arriver comme ça à une nouvelle émission. On peut contenir des infos. Encore des sujets vraiment palpitants cette semaine.
On vous prépare des entrevues pour la semaine prochaine. On n'en a pas systématiquement, là, mais je travaille tranquillement pas trop vite sur une ou deux bonnes entrevues à venir. Vous allez beaucoup apprécier. Tu vas nous parler tantôt, toi, d'échecs plus tard dans l'émission?
Une grande passion, le jeu des échecs.
Ah ouais, c'est vrai.
Ça date pas d'hier, hein, ce jeu-là. C'est le roi des jeux. On peut l'appeler le roi des jeux. C'est vraiment incroyable et j'ai toujours beaucoup aimé. On va regarder un peu d'historique des échecs et regarder les champions du monde aussi, les grands tournois qui s'en viennent 2024 pour la fin de l'année également.
Dans quelques instants, moi, je veux qu'on aille faire un tour du côté de l'épicerie, de votre supermarché, pour vous expliquer un petit peu pourquoi votre panier d'épicerie a augmenté ou la facture a grimpé au cours des dernières années ou particulièrement dans la dernière année, puis pas forcément juste à cause de l'inflation. On va vous expliquer ça. D'abord, toi, tu es un passionné, j'ai entendu dire, d'astronomie. Ça se peut-tu, ça?
Oui, vraiment. Oui, j'ai toujours été un grand fan des étoiles.
Et là, tu vas nous parler d'un phénomène assez singulier. Tu sais, on rêve tous de voir, par exemple, les aurores boréales. Hein. Tu sais, c'est parmi les...
C'est très beau, ça.
C'est très beau, oui, j'en
beau
ai
phénomène.
Vu. Ouais. Mais là, tu veux nous parler de pluie, mais attention, pas n'importe quelle pluie, des pluies d'étoiles filantes.
Absolument, parce qu'il y en a plein, des pluies d'étoiles filantes, puis peut-être que les gens ne savent pas exactement les dates, un peu qu'est-ce que c'est, la cause, la source et tout ça. Donc, pourquoi pas faire le tour aujourd'hui des pluies d'étoiles filantes, et on en a des belles qui s'en viennent au mois de novembre, là, donc ça pourra être intéressant à les regarder. Puis, premièrement, ben pluies d'étoiles filantes, on se lance, Simon?
Ben oui, absolument.
On peut appeler ça un météore et il faudrait faire la petite différence. Connais-tu la différence entre un météore et un météorite, Simon?
Ah, j'aurais bien de la difficulté à expliquer la différence.
Ah, ben c'est ça. Ben c'est... Un météore, c'est la petite étoile filante.
OK.
Et un météorite, c'est quand c'est assez gros pour que ça touche au sol.
OK.
Ça se désintègre pas complètement dans l'atmosphère. Alors, c'est la grande différence. Donc, une pluie d'étoiles filantes, c'est une pluie de météores.
OK.
Parce qu'une pluie de météorites, ça serait dangereux.
Non, ouais. OK, je comprends. Donc, ce qui tombe sur Terre, qui laisse de gros cratères, c'est est-ce qu'on dit un ou une météorite? Une météorite, hein, je pense?
C'est, je crois.
Oh, ben là, non, c'est pas grave, on n'est pas dans un cours de français. donc, quand il y a un météorite ou une météorite qui tombe sur la planète, qui laisse un cratère, ça, c'est météorite. Mais météore, ça, c'est les pluies d'étoiles filantes.
C'est ça. Okay, je sais que c'est un météore.
Okay.
Mais, ouais. Et c'est ça. Puis pendant une pluie d'étoiles filantes, c'est qu'il y a une augmentation d'étoiles qu'on observe dans le ciel pendant un moment donné. Le phénomène est causé par le passage de la Terre dans l'orbite d'une comète. À ce qu'on sait, là, ce qui engendre, bon, c'est des petites poussières qui entrent dans l'atmosphère terrestre. Et puis là, ça semble provenir d'un même point dans le ciel aussi lorsqu'on a une pluie d'étoiles filantes. C'est ce point-là qu'on appelle le radiant.
Okay.
Bon, fait qu'on va expliquer vite une petite notion d'astronomie. Le radiant, c'est le point de la voûte céleste d'où les étoiles filantes ont l'air de venir.
OK.
Okay? C'est comme un peu une illusion, mais c'est ça. Habituellement, quand le point est situé dans une constellation, eh bien, la pluie d'étoiles filantes ou l'essaim prend le nom de la constellation. Par exemple, le radiant de l'essaim des Perséides est situé dans la constellation de Persée. C'est pourquoi les Perséides. Puis on dirait, le fait que tous les météores d'un essai semblent venir d'un même point, c'est une illusion d'optique, comme un peu lorsqu'on roule en voiture, puis là, sous la pluie ou sous la neige, puis là, on voit, on dirait que tout arrive du même point, hein, parce qu'on roule dans une direction, puis là, on dirait que tous les flocons de neige arrivent du même point. Eh bien, c'est le même phénomène. Autrement dit, c'est un point de fuite associé à la direction d'arrivée des météorites ou des météores. Alors, relative à la Terre. Dans le cas d'une pluie d'étoiles filantes, donc, c'est des météores, puis l'effet d'optique est lié au mouvement de la Terre qui, pendant qu'elle tourne autour du Soleil, rencontre, dans sa trajectoire, les petits grains de poussière. Alors, ils ont l'air de venir d'une constellation en particulier. Puis, les particules s'échauffent presque instantanément en plongeant à très grande vitesse. Ça, là, les pluies d'étoiles filantes, entre 65 et 135 km d'altitude. Et ça rentre à une vitesse entre 100 000 et 250 000 km/h.
Wow! OK, fait que si tu reçois ça en pleine face, là, c'est comme... c'est fini, là.
Ben, c'est de la poussière, ben, c'est ça. Peu importe à cette vitesse-là, en effet, c'est assez catastrophique. Et puis, la Terre, elle, se déplace à 29 km par seconde hein, autour du Soleil. Mm-hmm. Les poussières sont des vitesses de l'ordre de 40 km par seconde. C'est pourquoi on parle entre 100 000, 250 000 km/h, du 40 km la seconde. Puis si on compare, là, par exemple, la Station spatiale internationale, elle, elle se déplace seulement à 8 km par seconde. Donc ça, 8 km par seconde, c'est à peu près 29 000 km/h. Alors, la station spatiale, ça va vite, pareil, hein, c'est une station, puis il y a du monde dedans. Et les capsules qui reviennent sur Terre avec des astronautes entrent dans l'atmosphère à une vitesse semblable, à peu près 29 000 km/h aussi. Et puis, on recense pour les pluies d'étoiles filantes plusieurs dizaines de pluies d'étoiles filantes. Je vais parler de juste quelques-unes aujourd'hui. On ne pourra pas toutes les voir. Si vous voulez des listes exhaustives, ça se trouve facilement sur Internet. Et puis, chaque essaim produit chaque année à la même période une pluie d'étoiles filantes, mais avec une intensité variable. Ça peut durer, des pluies d'étoiles filantes, plusieurs semaines, des fois juste quelques heures. Généralement, il y a un pic d'activité qui est plus bref, il y a une journée qui est la meilleure, comme par exemple les Perséides, qui est la plus célèbre pluie d'étoiles filantes, elle est en été. C'est entre le 17 juillet, 24 août, le maximum d'activité est le 12 août. Et puis ça, ce serait des débris qu'on croise, là, qui proviendraient de la comète Swift-Tuttle. Donc, les Perséides sont caractérisés par leur vitesse très élevée. Eux, c'est dans l'ordre de 60 km par seconde, les Perséides, donc 216 000 km/h.
Wow!
Sont réputés, les Perséides, pour être pas mal les plus rapides. Alors, sont très belles. Ça, c'est la grande pluie d'étoiles filantes. On en voit des fois 100, 150 à l'heure le 12 août. C'est assez phénoménal. Mais là, on va s'intéresser à ceux qui s'en viennent. Les taurides. Là, ça veut dire.
Les taurides.
Juste à cause du nom, comme ça, es-tu capable de me dire le radiant?
Eh bien, Taurides, je ne sais pas trop, Taur?
Le taureau, c'est le taureau. Constellation okay. Du taureau.
Le taureau, OK.
Donc, elles ont l'air de venir de là. Le radiant est donc le taureau. La pluie de météores des taurides, c'est un événement annuel, mais il est associé au complexe d'Enki. On pense que le complexe d'Enki, c'était autrefois un grand objet qui s'est désintégré, puis ça aurait créé la comète d'Enki, puis plusieurs petits astéroïdes et des pluies de météores aussi. Alors, c'est pourquoi les taurides ont deux courants distincts. Il y a les taurides du sud, les taurides du nord. Celles du sud proviennent de la comète Enki elle-même, puis les taurides du nord proviennent d'un des astéroïdes résiduels. Donc, ça fait deux petits nuages de poussière dans lesquels on passe. Et puis, celle qui nous intéresse, c'est plus les taurides du nord cette année, qui se passent les 11-12 novembre, parce que les taurides du sud, ils ont un sommet précoce, là, il y a un pic précoce dans le mois d'octobre, mais il y a un nouveau maximum 4 et 5 novembre. Et puis en 2024, le pic principal du 4 et 5 novembre est prometteur parce que c'est quelques jours après la nouvelle lune cette année. Donc, 4-5 novembre, là, on pourrait voir 10 météores à l'heure à peu près. Les taurides sont visibles de partout sur la Terre, sauf du pôle sud. Seule place qu'on ne peut pas voir les taurides, puis les météores taurides sont lents, alors ils produisent occasionnellement des boules de feu. C'est une cible parfaite pour les astrophotographes. Là, c'est très belle pluie d'étoiles filantes. Donc, on regardera ça 4-5 novembre dans la nuit. Géminides. Es-tu capable de me dire le radiant?
Le Gémeaux?
Exact, c'est la constellation des Gémeaux. Ils sont une exception parce qu'ils ne seraient pas causés par une comète, ceux-là, mais par l'objet Phaéton, qui est de la famille d'astéroïdes Pallas. Les météorites des Géminides peuvent être vus à la mi-décembre. Habituellement, c'est un pic autour du 12 et 14 du mois. Vous pouvez peut-être prendre des petites notes pour les dates, là, c'est tant qu'à faire, hein, vu qu'on est là. Autour du 14 décembre, les Géminides sont aussi intenses et fiables que les Perséides.
Ah oui,
alors,
hein?
C'est en plein hiver, mais 14 décembre, ben, l'hiver n'est pas commencé officiellement. Mm-hmm. Des fois, on a des beaux ciels dégagés aussi, 14 décembre. Alors, il faudrait regarder ça, mais les températures, c'est ça, sont froides un peu. Alors, c'est moins populaire que les Perséides, mais très belles. On avance encore, le temps pour quelques autres, les Orionides.
Okay, Orion, probablement.
Orion, oui. Météore issu de la comète de Halley, un essaim qui est en activité jusqu'au 7 novembre. C'est à peu près du 2 octobre au 7 novembre. Son maximum d'activité, c'est le 21 octobre. Radiant qui se situe dans la constellation d'Orion. Et on a ensuite les Léonides.
Le lion.
Bravo, t'es bon dans les radiants, Simon.
J'ai eu de la misère sur le premier, par exemple, mais à un moment donné, j'ai commencé à comprendre la game un peu.
On comprend un peu, mais pas pire. Hein? C'est la comète Temple-Tuttle, celle-là pour les Léonides, qui peuvent être repérées pendant toute la période du 6 au 30 novembre. Maximum d'activité, celle-là, 17 novembre. Il va y avoir des belles étoiles filantes, reconnues pour des pluies de météores spectaculaires, les Léonides, et une des plus célèbres tempêtes de météores. C'est produit le 17 novembre 1833. Ça, il faut en parler. C'était des Léonides. La Terre a croisé l'essaim, puis on parle de 10 à 100 000 météores à l'heure.
Ah!
En 1833, ben là, t'imagines, les astronomes capotaient un peu. Puis, il y a eu des développements des théories scientifiques sur l'origine des météores à partir de là. C'est à cette époque-là que l'Américain Denison Olmsted a donné une explication au phénomène. Il avait publié dans le Journal américain des arts et de la science, puis il disait que le maximum d'intensité a été observé en Amérique du Nord seulement. Les météores provenaient de la constellation du Lion, mais c'est là qu'il a émis l'hypothèse que les météores étaient originaires d'un nuage de particules dans l'espace. Et crois-le ou non, c'est lui qui avait raison, M. Denison Olmsted, qui a découvert en fait la cause des pluies d'étoiles filantes. Bien, ça pourrait faire le tour pour là, mais j'espère que vous avez pris des petites notes et on a des belles pluies d'étoiles filantes qui s'en viennent novembre, décembre. Alors, puis c'est sûr que manquez pas l'an prochain si ça vous intéresse, les Perséides. Moi, le 12 août, je suis toujours avec quelqu'un où on va en camping ou quelque part, puis je regarde ça toute la nuit. C'est tellement fabuleux.
Oui, puis tant mieux quand on a un ciel qui est bien dégagé et qui permet justement de les observer, parce qu'autrement, le spectacle il tombe un peu à plat quand il y a des nuages un tout petit peu, là.
Exact, ça, puis aussi être assez loin des lumières de la ville.
Il y a ça.
La pollution lumineuse aussi,
oui. La pollution lumineuse, oui, absolument. Puis il y a des endroits, je pense, à travers le pays où il y a des observatoires, par exemple, comment je dirais ça, j'essaye de trouver le nom, là,
où il y a un télescope. C'est des observatoires.
Observatoires
scientifiques.
C'est ça, observatoires scientifiques où on peut se rendre, là, vous êtes, par exemple, de passage au Québec à Lac-Mégantic ou dans ces coins-là, là, il y a un très beau site pour observer les phénomènes des étoiles et puis les phénomènes spatiaux. Donc, j'ai cherché sur Internet tantôt, c'est pas un météorite, c'est une météorite. Alors, c'est effectivement une météorite. C'est
une météorite et un météore.
Un météore, exactement. Hey. On arrive à la conclusion de cette première portion de l'émission, déjà, hein, c'est pas des blagues.
Ah, vraiment, vraiment.
Oui, oui, absolument. Dans un instant, je vous explique un peu les raisons pour lesquelles vous avez l'impression que votre panier d'épicerie, c'est pas une impression, votre panier d'épicerie a augmenté dans la dernière ou deux dernières années ou à peu près, puis de façon considérable. Et toi, tu vas nous parler de danse également?
Oui, l'histoire de la danse. Et puis, il y a eu des belles choses qui se sont passées là, cette année concernant la danse. On a pu en voir à la télé. Il y a de la danse qui s'est immiscée aux Jeux olympiques.
En plus, quand même.
Alors, on fera le tour. La danse, c'est large. Alors, on va en parler.
Alors, dans un instant, on va danser et puis on va manger dans notre prochain bloc. Restez branchés, c'est l'émission Peut contenir des infos.
Peut contenir des infos.
Vous êtes à l'émission Peut contenir des infos. Dans un instant, on parle de danse. D'abord, je vous explique les raisons pour lesquelles le coût de votre épicerie a beaucoup augmenté ces dernières années. Trouves-tu ça, Sébastien, que ça a augmenté pas mal? Hein?
C'est assez incroyable. J'avais jamais vu ça au niveau du beurre. Souvent, les viandes aussi, certaines sortes, c'était hors de prix. Mais on l'a vu dans beaucoup d'items.
Mais les raisons pour lesquelles votre panier d'épicerie a augmenté, c'est pas toujours parce que les prix sont supérieurs à ce qu'ils étaient. Oui, c'est vrai. Là, écoutez, l'inflation y est pour quelque chose. On ne se le cachera pas. Il y a des prix qui ont bel et bien augmenté. Mais d'abord, il faut mettre les choses en contexte. L'inflation, c'est quand les prix des biens et des services grimpent de façon rapide, mais qui ne vont pas diminuer ensuite. Hein. On s'entend que l'inflation, ça grimpe, mais ce n'est pas pour redescendre. Mais il y a d'autres pratiques dans l'industrie alimentaire et le commerce au détail qui explique aussi pourquoi ça vous en coûte beaucoup plus cher qu'il y a, par exemple, 2 ans pour nourrir votre petite famille. Puis je vous donne 3 bons exemples aujourd'hui. La première raison, c'est la fameuse réduflation. As-tu déjà entendu parler de la réduflation?
Non, le mot français...
La réduflation, c'est une stratégie qui consiste à réduire le format d'un produit, mais on ne change pas son prix. Ça fait qu'il y a 3 ans, 4 ans, par exemple, vous achetiez 24 tranches de fromage. Puis là, ben, vous avez un paquet qui ne renferme que 22 tranches de fromage. Alors, comprenez que pour faire le même nombre de sandwichs qu'auparavant, ça ne vous prend plus juste un paquet de tranches de fromage. Ça vous en prend 2, parce que sinon, vous n'arriverez pas au bout pour faire vos 24 sandwichs. Et ça a l'air de rien, mais quand le paquet était de 24 puis il est rendu à 22, ben, c'est 8,9% moins de tranches de fromage dans le paquet. Le prix n'a pas changé, là. Ça fait que c'est pour ça que, grosso modo, vous avez l'impression que votre facture d'épicerie augmente. Puis vous avez bien raison, parce que c'est pas juste à cause des prix qui augmentent, c'est aussi parce que y a certains produits, ça en prend plus pour arriver à votre résultat final. Si un paquet de 24 tranches coûtait 5 $ puis qu'on a réduit le prix à 22 tranches, ben là, vous comprenez que ça va au final vous en coûter plus cher. On a vu, et là, je vous donne d'autres exemples. On a vu, par exemple, au cours des 2 dernières années, des bartenders qui passaient de 6 à 5 bars. Donc ça, c'est 23,1% moins de produits dans la boîte. Vous avez vu des paquets de spaghettis qui sont passés d'un poids de 450 grammes à 410 grammes, donc 9,7%. Alors là, ça, c'est des exemples concrets de réduflation.
Hey, c'est de la stratégie.
La décaliflation. Est-ce que tu connais la décaliflation?
Et non plus, là, t'en sors des bonnes.
Il y a des termes français, hein? Ça, la décaliflation, c'est beaucoup plus difficile à déceler parce que le format ni le prix changent réellement, mais la décaliflation, ça consiste à réduire la qualité du produit.
Oh.
Puis il n'y a pas réellement de législation qui contraigne les entreprises à utiliser tel produit plutôt que tel autre dans la préparation de leurs aliments. Évidemment que si ça devient impropre à la consommation, ben là, c'est plus tolérable. Mais je vous donne à titre d'exemple, la margarine. La margarine, c'est une émulsion d'eau et d'huile végétale avec des émulsifiants. Ben, on va acheter la même quantité de margarine, le produit fini, là, on a un contenant de 454 grammes, par exemple, c'est comme une livre de margarine, mais à l'intérieur, on a coupé le pourcentage d'huile pour ajouter davantage d'eau et d'émulsifiants. Alors, le résultat dans vos recettes, par exemple, dans la préparation de vos sandwichs, ne sera pas tout à fait le même. Puis encore là, ben, ça fait que vous allez être obligé d'acheter peut-être davantage de margarine pour arriver à votre résultat final. Même chose pour, on l'a vu, par exemple, avec des biscuits sablés au beurre dans lesquels on aura remplacé le beurre par de l'huile de palme. Donc ça, c'est une autre raison pour laquelle votre facture d'épicerie, vous n'avez pas l'impression que nécessairement, dans certains produits, ça a augmenté, mais au final, la qualité n'est plus là, la quantité n'est plus là, puis ça se répercute, là, grosso modo, dans votre garde-manger.
Et puis, en plus que l'huile de palme, là, c'est controversé.
Ah oui, c'est controversé, certain. Et la troisième chose, et je fais rapidement parce que je veux te laisser beaucoup de place pour la danse, c'est la fausse plus-value. La fausse plus-value, c'est un peu de la réduflation, mais de façon, c'est beaucoup plus sournois. C'est-à-dire que tout en réduisant la quantité, le poids ou encore la taille d'un produit, on a substitué la quantité retirée par un ajout. Et ça, c'est venu fausser un peu la perception du consommateur. C'est de cette façon-là, à titre d'exemple, qu'on a vu apparaître dans les dernières années des boîtes de croquettes de poulet surgelées dont on a retiré une certaine quantité de croquettes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a substitué par une enveloppe de sauce.
Ah oui, oui, oui.
Donc, si vous aviez, par exemple, 454 grammes décrits sur la boîte il y a un an ou deux, vous aviez une quantité X de croquettes. Cette année, vous achetez la même boîte qui pèse encore, avez-vous l'impression, 454 grammes, sauf qu'il y a moins de croquettes, mais il y a une enveloppe de sauce qui, ouais, plus souvent qu'autrement, va finir dans le lavabo ou encore dans un fond de tiroir du frigo.
Oui, c'est vrai. T'sais,
c'est ça un peu. Alors, quantité moindre, qualité moindre, des faux cadeaux comme, par exemple, des sauces, vous n'avez pas forcément toujours payé plus cher. Ou du moins, le prix affiché sur la tablette n'est pas différent. Mais si vous avez bel et bien l'impression que l'épicerie, ça coûte plus cher, que vous mangez plus mal que vous avez jamais mangé au cours de votre vie, ben apercevez-vous là, qu'il y a peut-être des raisons qui sont réduflation, décaliflation et cette fausse plus-value ou ces faux cadeaux qu'on vous donne comme de la sauce dans une boîte de croquettes.
Hey, puis je ne sais même pas si je vais me rappeler des mots tellement qu'ils sont nouveaux.
Oui, réduflation, décaliflation. Ben, fausse plus-value, ça, c'est comme ouais, tel que tel. Là,
ça,
mais...
c'est tel que tel.
Auras-tu assez d'un 7-8 minutes à peu près pour parler de danse?
Ben, ouais. On va y aller là-dedans. Écoute, c'est le temps qu'on a aujourd'hui, mais il y aurait tellement de choses à dire. Hein, la danse qui existe depuis très, très, très longtemps. Et toi qui es un passionné d'histoire, Simon, les premières indications sur l'exécution de danse, tu dois bien te douter que ça date pas d'hier. Hein.
Et ça doit pas dater d'hier, effectivement.
Ça date de la préhistoire. Au Paléolithique, où les peintures rupestres attestent déjà l'existence des danses primitives à cette époque-là. Puis le Paléolithique, ça débute il y a environ 3 millions d'années et ça se termine il y a 10 000, 12 000 ans, hein, pour situer à peu près. Mais c'est une grande période, on va dire, mais déjà, il y a plus de 12 000 ans, il y avait de la danse, surtout un acte cérémonial rituel adressé à une entité supérieure au départ, comme pour conjurer un sort. On aura toujours la danse de la pluie, hein, pour donner du courage, qui était la danse de la guerre ou de la chasse. Ça existe depuis très longtemps. Pour plaire aux dieux, dans l'Antiquité égyptienne, grecque ou romaine, on avait certaines danses. Et danses primitives, couplées au chant et à la musique, ça avait aussi probablement la capacité de faire entrer les participants dans un état de transe. Depuis très, très longtemps. Et même si toutes les danses peuvent être données en spectacle, on peut caractériser les danses par leur nature première, soit de spectacle, danse de société, ou il y a les danses de compétition. Et il y a eu l'arrivée aux Jeux olympiques du breaking. Et,
oui, c'est vrai.
C'est un Canadien qui a gagné, donc ça, c'est assez incroyable. On y reviendra à Phil Wizard, Mais pour commencer, les danses de société, les danses traditionnelles folkloriques, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des danses en quadrille aussi.
Oui, ben oui, absolument.
Il y a des quadrilles français, quadrilles des lanciers, toutes sortes de quadrilles américains, de variétés parisiennes, quadrilles des abeilles. C'est une danse de bal, en fait, le quadrille et de salon, qui était en vogue au début du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, à peu près. C'était une danse, le quadrille, qui est traditionnellement, bon, c'était quatre couples qui formaient un carré, qui se faisaient face. Puis là, les couples effectuaient des chorégraphies avec différents pas de danse, des figures, des échanges de partenaires aussi. On a peut-être déjà vu ça dans des films. Ou En tout cas, quadrille, ça a été vraiment, vraiment des danses qui existent depuis longtemps. Et puis, principalement au cours de manifestations folkloriques qu'on les dansait ou dans des bals populaires, ou encore dans des soirées de prestige, des bals viennois, des soirées d'association, ou même des galas d'école militaire, on avait ces fameuses quadrilles. Ensuite de ça, les danses historiques, il y a la polka, le scottish, le mazurka, il y en a tellement. Il y a des danses sociales, des danses en ligne, il y en a plusieurs sortes aussi. On avait Madison, country, les claquettes irlandaises. Bon, il y a toutes sortes de choses. Dans les danses de compétition, il y a les danses latines qui ont existé, la samba, le cha-cha-cha, rumba. Il y a eu des danses acrobatiques. Il y a le, par rapport au hip-hop, c'est là qu'on retrouve le breakdance. Et c'est là qu'on va en parler, le popping, locking, c'est tous des styles de breaking. Puis on a appelé ça seulement breaking aux Jeux olympiques cet été. Et ça se pourrait que ce soit l'unique expérience olympique de cette discipline-là, hein, parce que c'est pas dit que ça revient aux Jeux olympiques. Alors, c'est peut-être la seule fois, mais c'est une nouvelle page d'histoire qui s'est écrite avec la danse aux Olympiques. Parce que le breaking, c'est d'abord, on appelait ça le breakdance. Breakdancing.
Oui, j'ai entendu parler. Ben c'est ça, hein, c'est la même affaire que le breakdance.
Ouais, ben là, on a enlevé le mot dance pour les Olympiques. On a gardé juste breaking. Ça fait solide, ça fait sérieux, puis ça enlève le, ça met le côté sport, on va dire, de l'avant.
C'est plus vendeur, tu sais, marketing, alors breaking, tu sais, go for it.
Ouais. Et sais-tu où est-ce que c'est apparu le breaking ou le breakdance?
Ben je dirais sur la côte ouest américaine, probablement en Californie. Ça, c'est mon impression.
C'est d'abord né dans le Bronx à New York.
Ah oui, ouais. OK.
Puis ça a traversé l'Atlantique, bien sûr, dans les années 1980. Donc, les Européens se sont mis à faire du breakdance. Et ce qui était bien avec ça, le breakdance, c'est toute une culture. Hein? Puis il n'y avait pas d'histoire de couleur, de religion. Tout le monde se retrouvait avec ça, le breaking. Ça a été très, très rassembleur. Puis avec l'élévation au rang de discipline olympique, bien là, il est venu des normes associées au sport professionnel là-dedans. Donc, c'était très créatif, mais il a fallu s'adapter avec un encadrement pour amener ça aux Jeux olympiques quand même. Et aux Jeux de Paris, il y avait 32 athlètes, 16 hommes, 16 femmes, et moi, j'ai trippé comme un enfant. J'ai écouté les deux compétitions, là, c'était le samedi et le dimanche, les femmes, les hommes. C'était le vendredi et le samedi, ou en tout cas, j'ai écouté les deux. Et puis, c'était vraiment enlevant. J'ai toujours été un passionné, mais là, j'ai trippé.
Il y en a qui étaient moins convaincants que d'autres, par exemple.
Oui, celle de l'Australie là, qui a fait rire d'elle un petit peu chez les filles.
Non, c'est pas drôle de rire du monde, mais c'est quand même, c'était pas très impressionnant,
on va dire. Elle faisait le kangourou. Non, puis ça, c'est dommage. Là, ça aurait pu faire mal paraître la discipline hein, quand même, mais bon... Mais c'était la seule, là, je dirais, qui a été comique. Mais c'était une minute à peu près les passages, les B-boys, B-girls, c'est comme ça qu'on les appelle, qui devaient s'adapter à la musique, hein, qui était choisie par un DJ. Ils ont sélectionné 160 chansons pour les Olympiques. Puis, il y avait 9 juges qui devaient évaluer les performances en se basant sur 5 critères: technique, exécution, originalité, musicalité et vocabulaire. Puis Philippe Kim, qui a remporté l'or, hein, c'est un Canadien, originaire de Vancouver. Phil Wizard, de son nom d'athlète.
De scène, ouais, d'athlète.
Ouais, 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 de scène aussi. Il a décroché l'or aux Jeux olympiques, donc Canadien d'origine coréenne, 26 ans. C'était un des favoris d'ailleurs pour l'emporter, puis il a montré une performance dominante. C'était tellement beau à voir. Il a battu donc Danny Dan, le Français, qui a eu l'argent, et c'est le breaker américain Victor Montalvo, l'autre favori, qui a remporté la médaille de bronze. Et puis, avec 15 rounds exténués en cours de la journée, Phil Wizard qui a remporté beaucoup de batailles grâce à son vocabulaire, lui, qui était exceptionnel. Le vocabulaire, c'est à quel point tu as différents mouvements qui s'enchaînent les uns après les autres avec de l'originalité. Et puis, Phil Wizard a rejoint donc la B-girl japonaise Amy qui a gagné chez les filles. Donc, ce sont les premiers et peut-être qui seront les seuls médaillés d'or en breaking de toute l'histoire. Alors, je tenais à le souligner. Et c'était pas la première fois tout à fait que la danse et s'invitait aux Jeux olympiques. En 1984, il y avait quand même eu, aux Jeux olympiques de Los Angeles, une centaine de B-boys qui étaient montés sur la grande scène avec le chanteur Lionel Richie pendant la cérémonie de clôture. Donc, c'était pas dans la compétition, mais il y avait eu du beau breakdance aux Jeux olympiques. Et les prochains Jeux d'été à Los Angeles en 2028, ben, ils n'ont pas inscrit le breaking à leur programme. Il y a d'autres disciplines comme le cricket, la crosse et le flag football qui vont faire leur entrée au lieu. Est-ce que le breaking sera de retour en Australie en 2032? mais la décision n'a pas encore été prise. Donc, on ne le sait pas. Et puis, si on a le temps, juste mentionner...
Une petite minute à peu près, oui.
Bon, l'émission Révolution.
Oui.
Cette année, c'est parce que là-dedans, on a vraiment le sommet du sommet, les champions des champions. Cette année, c'est une émission des étoiles. Si vous avez manqué le début de la saison, c'est tout facile de rattraper ça. C'est en rattrapage sur TVA. Puis, c'est bon, Révolution. Puis, vu que c'est une saison des étoiles, et puis, ils ont surpris tout le monde hein, pour les duels. Ils ont fait des auditions pour les étoiles. Ils ont trouvé tout leur groupe étoile. Puis, pour les duels, au lieu de s'affronter ensemble, ils font venir des nouveaux aspirants, puis là, c'est plein d'aspirants qui affrontent les étoiles pour tenter de leur ravir leur titre. Et puis, c'est vraiment des champions du monde de différentes disciplines qui viennent à Révolution pour tenter d'avoir le titre de Révolution. Et le super concept, qui a des caméras 360 degrés,
oui.
Puis là, pendant ton numéro, à un moment donné, il y a une pause qu'il faut qu'il soit parfaite, là, puis le moment Révolution. Et puis ça, c'est tellement excitant à voir aussi à chaque performance. Donc non, franchement, je suis un passionné dedans. Je me rappelle toujours qu'on avait commencé à faire du petit shuffling quand j'avais 10-12 ans en écoutant du rap, là, puis la vieille danse des années 80. Puis j'ai toujours été un passionné de la danse par la suite. Donc, c'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui, Simon.
Bon, parfait. Mais manifestement, du shuffling de l'époque, de ta jeunesse, t'as progressé un petit peu dans tes goûts en matière de danse, à t'entendre parler.
Hein. Oui, oui, oui. Je suis allé beaucoup plus loin. Ben, c'est qu'aussi la danse qu'on connaît, le hip-hop, c'était un peu la danse sur hip-hop à l'époque, le shuffling, okay. Mais là, c'est rendu tellement évolué. Puis on a vu les danseurs devenir même des athlètes olympiques. On rigole plus.
Sarah, conclusion de notre deuxième bloc de l'émission peut contenir deux infos. Il y en a un troisième et même un quatrième qui s'en vient dans quelques minutes. Restez des nôtres.
Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Pour cette troisième portion de l'émission peut contenir des infos, je veux vous amener sur les routes du monde. T'es un gars qui aime ça voyager un petit peu, toi, Sébastien. Hein?
Oui, et j'ai été intra-pays. Je suis pas sorti du Canada, mais je l'ai fait le Canada en voiture, comme on l'avait déjà mentionné. Mais non, je suis jamais sorti ailleurs. Mais le Canada est assez grand, donc oui, de la route, j'en ai fait dans le pays.
Moi, j'en ai fait un peu aussi. Là, j'ai peut-être pas parcouru le pays à la grandeur. J'en ai fait probablement davantage, soit en avion ou encore en train qu'en voiture. Mais quand même, là, je suis allé à l'île du Cap-Breton, par exemple, en Nouvelle-Écosse, le nord de l'Ontario, 15-16 heures de route partir de chez vous, aller à Hearst, mm-hmm. dans le nord de l'Ontario. Bref, en tout cas, j'en ai vu du bitume, mais je veux vous parler des routes qui sont les plus congestionnées à travers la planète. Chaque année, c'est la compagnie TomTom. Tu connais la compagnie TomTom?
Non.
Peut-être pas, non. C'est une entreprise qui est assez réputée quand même pour ses logiciels de planification d'itinéraires et puis les appareils de navigation GPS. GPS TomTom, c'est assez connu, là. Puis si vous fouillez dans les boutiques d'applications, vous allez très certainement trouver, par exemple, les applications GPS de TomTom. Ben, chaque année, la compagnie publie son indice de trafic. Et là, ce qui nous expose, ce sont les endroits à travers la planète où c'est le plus, peut-être pas infernal de se retrouver dans le trafic, mais quasiment. Alors, il faudra évidemment attendre que l'année 2024 soit terminée là, avant qu'on puisse compiler les données pour les villes dont les routes ont été les plus congestionnées. Mais on peut quand même constater que dans le classement de 2023, parce qu'on a les chiffres de la dernière année, on s'aperçoit que le Canada... Est-ce que tu penses que le Canada fait bonne figure en matière de congestion routière ou si on fait pépic, mettons?
Je pense que ça fait bonne figure. C'est sûr qu'il y a du trafic à Toronto, puis proche de Montréal, puis proche de Vancouver, mais quand même les grandes, grandes villes. Sauf que je dirais que c'est pas des villes d'ampleur comme on a aux États-Unis, les New York et compagnie, et San Francisco, là. Donc, j'ai l'impression que, puis même dans d'autres pays, il y a tellement des grosses, grosses villes que j'imagine qu'il y a plus de trafic qu'au Canada.
C'est quand même surprenant, hein? Parce que je vais vous apprendre que le Canada fait partie du top 3 des routes.
Des pires.
Ouais.
Ah!
Oui, absolument. Et dans le top 3, en troisième position, vous l'aurez peut-être deviné, tu l'as dit tantôt toi-même, là, c'est la capitale ontarienne, c'est-à-dire Toronto, mm-hmm. qui est la troisième ville au monde où, selon l'indice de trafic de TomTom, où les routes sont les plus congestionnées. La métropole affiche un temps moyen de, c'est pas interminable, mais pas loin, par 10 km parcourus, ça prend 29 minutes.
Eh hey, oui, puis regarde, juste pour te dire, la dernière fois que je suis allé à Toronto, j'ai resté un bon 3 heures là, pour parcourir pas beaucoup de kilomètres. Là, un bon 3 heures dans le gros trafic. Donc, je comprends que Toronto, ouais. ça, c'est achalandé.
Armez-vous de patience. Écoutez, c'est à peine 30 secondes de moins que Dublin, la capitale de l'Irlande, où on met 29 minutes 30 secondes en moyenne pour franchir 10 km. Mais on peut quand même se réjouir. On est dans le top 3, mais il y a pire. Il y a vraiment, vraiment pire. La capitale britannique, Londres, c'est elle qui trône au sommet.
Ah oui?
Waouh, c'est effrayant. Ça prend en moyenne, tenez-vous bien, 37 minutes et 20 secondes pour parcourir 10 km à Londres, en Angleterre.
C'est presque en tout temps, c'est en moyenne?
Ben, c'est une moyenne. Là. C'est du temps moyen. Là. C'est sûr qu'à 2h30 du matin, quand il n'y a pas grand monde sur
mieux,
le...
Hein?
Ça doit aller mieux. Mais quand vous circulez dans la journée, là, attendez-vous à mettre, pour faire 10 km, là, à mettre à peu près 37 minutes et 20 secondes à Londres. C'est quand même assez extraordinaire. L'indice de trafic TomTom renferme pas moins de 387 villes. On comprendra que la vôtre, si vous habitez, par exemple, dans une région plus rurale, est probablement pas là. Mais 387 villes qui sont réparties dans 55 pays sur 6 continents. Donc, c'est quand même assez exhaustif. Et l'indice évalue les villes non seulement en fonction de leur temps moyen de trajet, mais aussi le coût du carburant et les émissions de CO2. Et le mieux dans tout ça, et c'est là où moi, ça me réjouit, c'est que ces données-là ne sont pas... sont pas conservés pour la stricte utilisation commerciale ou pour seulement pour les firmes de planification de la circulation ou quoi que ce soit. C'est des indices ou en fait des données qui sont accessibles gratuitement en ligne.
C'est public.
Ouais, c'est public. J'ai fouillé ça puis j'ai trouvé ça vraiment très, très bon parce qu'on donne toutes les données. On dit combien de CO2, par exemple, sont relâchés dans l'atmosphère et tout ça. L'adresse est quand même pas très, très difficile. C'est tomtom.com, donc tomtom.com, /traffic-index/ranking. Et on va la mettre de toute façon dans notre page Facebook. Cette semaine, la page Facebook de l'émission peut contenir des infos. Et tu sais, je te demandais tantôt, j'ai dit, est-ce que d'après toi, le Canada est fait bonne ou piètre figure à l'échelle mondiale? Ben, je vais dire, on a quand même quelques villes là, qui sont dans le... Il y en a 387, là. Ben, vous serez étonné de constater qu'il y a quand même quelques villes canadiennes, quelques autres villes qui sont là-dedans dans ce palmarès. Pas très reluisant. Puis, si encore, ils étaient comme en 386e position, mais même pas, sont comme assez dans des rangs assez élevés. Je pense, entre autres, à Vancouver. Vancouver est la 32e ville parmi les plus congestionnées du monde, parmi les 387 villes évaluées. Ils font en moyenne 23 minutes 10 secondes pour franchir 10 km à Vancouver. Winnipeg est au 93e rang avec un temps de 19 minutes 20 secondes. Montréal arrive 103e au monde avec 19 minutes par 10 km. London en Ontario est 142e. La ville d'Halifax en Nouvelle-Écosse occupe la 171e position. Edmonton, 200e, Hamilton, 220e, la capitale nationale Ottawa est 231e et dans cette espèce de palmarès pas très encourageant, Calgary, Québec et Kitchener-Waterloo sont aussi d'autres villes canadiennes parmi les plus congestionnées de la planète.
Et peux-tu me dire, Toronto, il était à quel rang?
Troisième.
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 Sur 387. Sur
387.
Oh là là.
Là, vous vous posez la question, vous dites, voyons, c'est de la, j'allais dire le mot anglais, là, de la bullshit, là, si on veut. Là. C'est comme, vous allez dire, ça s'assoit sur quoi? Sur quoi on se base là, pour établir un pareil palmarès? L'indice de trafic de TomTom se base sur des données qui sont collectées à partir de diverses sources, dont un échantillon représentatif de, quand même, c'est assez impressionnant, 551 milliards de kilomètres parcourus.
Oh!
Donc, il y a quand même un échantillonnage de kilométrage qui est quand même assez exhaustif pour arriver à établir ce palmarès des 387 villes à travers le monde où ça prend le plus de temps pour parcourir les kilomètres. Chaque jour, il y a plus de 600 millions d'appareils de navigation GPS de TomTom ou encore des systèmes intégrés au tableau de bord et même l'application TomTom dans votre téléphone cellulaire. Tous ces appareils-là, 600 millions, envoient quotidiennement des données qui sont anonymisées au serveur de l'entreprise en temps réel, parce que je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, mais vous avez, quand vous avez un GPS, par exemple, dans votre téléphone cellulaire, oui, vous avez le programme à proprement parler dans votre téléphone, c'est comme il y a bien des informations là-dedans, mais il y a un paquet d'autres informations aussi qui vient de serveurs qui sont distants de votre appareil, hein, pour être capable de vous dire, par exemple, ah, ben là, c'est congestionné, tu devrais passer à telle place. Mm-hmm. Ben, c'est parce qu'à quelque part, il faut que ce soit vérifié sur un serveur. Donc, c'est 600 millions d'appareils-là qui vont quotidiennement se connectés sur des serveurs distants de la compagnie TomTom fournissent justement des informations. Et ça, c'est ce qu'on appelle des « floating car data ». Donc, des données de voitures flottantes, si on transcrirait ça ou on traduirait ça en français, et des données qui renferment des informations de géolocalisation et de vitesse directement à partir de véhicules qui sont en mouvement aux quatre coins de la planète. Et pour en arriver au classement final, parce que là, vous allez dire, OK, oui, c'est beau, là, on a 600 millions d'appareils, on a 551 milliards de kilomètres parcourus, mais il y a d'autres, on dirait ça, d'autres variables qui font qu'on peut dire que les routes sont congestionné ou pas. Il y a un paquet de variables qui sont entrées dans le système. Les infrastructures routières, est-ce qu'il y a des ponts, des choses comme ça, des viaducs, des tunnels. Les types de rues, est-ce que c'est un boulevard, est-ce que c'est une autoroute. Leur capacité, est-ce que ça a quatre voies de large, est-ce que ça a juste deux voies. Et c'est à partir justement de toutes ces différentes données qu'on a colligées et de savants calculs qu'on en arrive à déterminer quelles sont les villes du globe où on passe le plus de temps dans le trafic. Et Toronto, je vous l'ai dit tantôt, qui s'est accaparé la troisième position du palmarès en 2023.
Donc, c'est Londres en première place.
Londres en première place, Dublin en deuxième position, la capitale de l'Irlande, et en troisième position, c'est Toronto.
Toronto, Canada.
Comment ça te prend le temps, juste pour le fun, là, pour te rendre au boulot à partir de chez vous?
Là, présentement, où j'habite, je suis à côté. Donc, c'est 30 secondes, une minute. Je prends l'autoroute quand même, mais ça me prend à peine une minute.
C'est ça la beauté d'habiter dans une région un petit peu moins congestionnée, là, tu sais, comme par exemple Shediac Mountain et les environs, tu sais. Des fois, on a l'impression, moi, j'habite la région de la capitale nationale, Ottawa-Gatineau. En théorie, si je prends mon auto à 11 heures le soir ou encore à 2 heures du matin pour me rendre au centre-ville d'Ottawa à partir de chez nous, c'est probablement dans l'ordre de 15 minutes, quelque chose dans le genre, pour franchir la distance d'une dizaine de kilomètres ou quelque chose du genre. Par contre, le matin, je vais t'avouer que c'est dans l'ordre de 30, 35, 40 minutes là, pour pouvoir franchir cette distance-là, compte tenu justement des infrastructures routières. Il y a des cônes oranges là, il y a de la circulation, il y a des bris, des accidents, des affaires comme ça. Alors, c'est ça qui, au final, fait qu'on est capable d'établir ce palmarès. Moi, j'en viens tout simplement pas. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent via Choc FM à Toronto sont en mesure, eux autres, de témoigner de ces chiffres-là, mais ça a l'air que Toronto, c'est assez... j'irais pas jusqu'à dire infernal, mais c'est l'endroit où il fait pas bon se promener nécessairement en voiture.
Ben là, c'est troisième ville au monde, la pire. Là. Donc non, c'est du trafic. Donc, les gens là-bas, c'est clair, sont au courant que c'est difficile. Ils doivent beaucoup prôner le transport en commun et tenter de trouver d'autres moyens que la voiture pour se déplacer parce que ça n'a plus de bon sens rendu là.
On va marquer un temps d'arrêt, c'est la troisième pause de l'émission. On est rendu à la fin de ce troisième bloc et puis dans un instant, on consacre le quatrième et dernier bloc de l'émission peut contenir des infos en entier à un jeu qui est... Est-ce que c'est millénaire? Je ne sais pas. Tu vois, en tout cas, tu vas nous l'apprendre dans un instant. On va parler de quoi?
C'est au moins millénaire et multimillénaire, les échecs.
Les échecs dans un instant. Restez avec nous autres.
Restez en contact avec Peut contenir des infos, abonnez-vous à notre page Facebook. Si vous avez des suggestions, des idées ou des questions à nous soumettre, écrivez-nous par courriel pcdi@radiorfa.com.
On entre dans la quatrième portion de l'émission Peut contenir des infos et je sens mon collègue Sébastien fébrile parce qu'il va nous parler d'un sujet qui a l'air de le passionner un petit peu. T'as beaucoup de passion dans la vie, Sébastien, on dirait. Hein?
Ben, oui, je suis pas passionné de tout, mais il y a certaines choses que...
Qui t'accrochent plus.
Ouais, depuis que je suis jeune. Puis les échecs, ça en fait partie.
Les échecs, tu vas nous faire l'histoire du jeu d'échecs.
Et attention, là, ce n'est pas parce que je suis un champion d'échecs ou quoi que ce soit. Là, je me considère vraiment intermédiaire et même débutant intermédiaire parce que c'est très difficile de s'améliorer à ce jeu qui est, ma foi, fort complexe. Les ordinateurs sont poussés, sont rendus loin pour l'analyse du jeu d'échecs. Et c'est des milliards et des milliards de possibilités aux échecs et puis c'est très, très complexe. Et pour s'améliorer, c'est pas seulement en jouant qu'on s'améliore, faut vraiment y mettre du temps de l'étude. Il y a des gens qui prennent leur retraite dans la vie puis qui ont hâte de prendre leur retraite seulement pour consacrer le reste de leur vie aux échecs, hein, tellement que c'est prenant quand tu veux vraiment t'entrer là-dedans puis t'améliorer. Mais jeu passionnant qui existe depuis très très longtemps et tu me demandais, je pense que je vais t'en apprendre des petites parce que la façon que tu m'as posé la question tout à l'heure, tu me demandais est-ce que c'est millénaire? Ben oui, le jeu d'échecs a été introduit dans le sud de l'Europe à partir du 10e siècle par les Arabes.
Okay.
Mais on ignore où il a été inventé exactement le jeu d'échecs. Et ça, c'est ce qui me fascine, entre autres, par rapport aux échecs. C'est un des jeux les plus anciens. Ça dérive du chatran, qui est lui-même une version perse du chaturanga de l'Inde. Donc, c'est des jeux qui ressemblaient. C'est comme un peu les ancêtres. Mais les règles actuelles se fixent à partir du 15e siècle pour ce qui est des échecs.
Alors, les années 1400, le grosso modo, là.
Ouais, puis il y a le mythe de Brahman Sissa, qui pour expliquer peut-être, c'est un mythe, hein, donc c'est vers 1300. La légende la plus célèbre, en fait, sur l'origine du jeu d'échecs, c'est due aux Perses. Ça raconte l'histoire d'un roi légendaire des Indes qui avait promis une récompense exceptionnelle à celui qui lui proposerait une distraction qui le satisferait. Donc, le sage Sissa lui a présenté le fameux jeu d'échecs. Et là, le souverain a demandé à Sissa ce qu'il voulait en échange et humblement, Sissa aurait demandé au prince de déposer un grain de riz sur la première case du jeu d'échecs et deux grains de riz sur la deuxième, en doublant comme ça sur chaque case jusqu'à la 64e case. Donc, ça avait l'air d'être correct. Puis, le roi, il a dit, ça a l'air pas pire, mais son conseiller au roi, il aurait dit qu'il venait de signer la mort du royaume parce que les récoltes de l'année suffiraient même pas à payer le jeu. sur la dernière case de l'échiquier, là, sérieux, quand on double, il faudrait déposer plus de 9 milliards de milliards de grains.
Wow, le gars, il était intelligent quand même, hein, quand il a proposé
attention,
ça.
Ça, c'est juste sur la dernière case. Il faudrait ajouter tout ce qu'il y avait sur les autres cases, sur les 63 autres cases. Là.
Ben oui,
9 milliards
plus.
De milliards, c'est juste le montant qu'il y a sur la dernière case, imagine. Oui. Donc, ça fait un total qui n'a pas de bon sens. C'est dans les 20 chiffres.
C'est extraordinaire. C'est vraiment bien donc, passé.
Ben, c'est ça, tu sais. Puis c'est vrai que ça a l'air de rien. Au début, on se dit, on va doubler.
1, 2, 4, 8, 16. Là, t'as coup, hein. Okay. C'est bon.
Il y a des variantes de la légende qui existent. Une qui suggérait que le roi avait accepté à condition que le sage compte les grains lui-même. Donc, tu sais, il ne l'aurait pas payé. Ouais. Une autre légende qui affirmait que Sissa avait eu la tête tranchée parce qu'il avait été trop effronté de demander ça au roi. Mais il y a certaines versions qui disent que Sissa n'a rien demandé en échange finalement, puis il a donné son jeu d'échecs. Mais bon, tout ça, ce sont des légendes, on ne pourra jamais vérifier.
Ouais.
En 1886, Wilhelm Stenitz, un Autrichien, a été le premier champion du monde officiel d'échecs. Et ensuite, Alexandre Alekhine, ça, c'est, il y a peut-être des noms que vous allez reconnaître dans ceux que je vais nommer. Alexandre Alekhine, il a été très, très réputé, lui, pour sa défense avec les chevaliers aux échecs. Lui, il se promène avec les chevaliers puis il faisait sortir tous les pions de l'adversaire là, en se promenant son chevalier au début. Il défaisait un peu la structure de l'autre puis il est devenu un grand professionnel de cette méthode. Lui, de 1927 à 1935, il a été champion et de 1937 à 46, et il est mort champion du monde, Alekhine.
Okay.
Donc, on ne sait pas jusqu'où ça aurait pu se rendre. Lui, c'est un des grands. Bobby Fischer, lui, je suis certain que tu connais le nom. Parce
ben,
qu'il y a
ça
des
me dit quoi, mais
ça.
OK.
Bobby Fischer, il a été champion de 1972 à 1975, donc seulement pendant 3 ans, mais il a perdu son titre par forfait. En 1975, Bobby Fischer avait refusé de jouer le championnat du monde contre Anatoly Karpov. Et il y a un film qui s'appelle « À la recherche de Bobby Fischer » sorti en 1993. C'est un très bon film d'échecs, mais ça ne retrace pas l'histoire de Bobby Fischer. C'est le joueur d'échecs américain Joshua Waitzkin qui, lui, bon, c'est dans le film « À la recherche de Bobby Fischer », mais vraiment, ça, c'est un bon film. Et Garry Kasparov a été, lui, le champion russe de 1985 à 93, ben, champion du monde, mais c'est un russe. Et puis Magnus Carlsen, c'est lui, je veux te parler plus précisément. Lui, maintenant, il est le meilleur joueur de tous les temps d'échecs considérés. Il a été de 2013 à 2023 le quintuple champion du monde classique numéro 1 incontesté depuis juillet 2011. Actuel champion du monde, par contre, c'est le Chinois Ding Liren qui a succédé au Norvégien Magnus Carlsen en 2023, mais c'est suite à une démission par un manque de motivation pour Magnus. Donc, Magnus est vraiment le grand champion au monde. Il a fait la une des journaux avec un discours bref mais puissant quand il a reçu cette année le prix FIDE pour le plus grand joueur de tous les temps, ce qu'on appelle le GOAT, le Greatest of All Time.
Oui, oui, oui.
Donc, il l'a reçu au Gala FIDE 100 qui s'est déroulé à Budapest en Hongrie. C'était dans le cadre de l'Olympiade d'échecs FIDE 2024. Ça s'est fait au mois de septembre cette année. Et puis lui, ce qu'il a dit, Magnus, c'est que c'est un peu étrange de recevoir ça, un prix, alors qu'il est encore un joueur actif. Souvent, on donne le prix du plus grand joueur de tous les temps à quelqu'un de décédé.
Ouais, retraité, ouais.
Ouais. Et puis, il a ensuite fait preuve d'humilité. Il a dit qu'il pensait que le 13e champion du monde, Garry Kasparov, était plus méritant que lui pour le plus grand de tous les temps.
Ben, je connaissais un petit peu Carlsen, Mais je dois admettre que de tous les joueurs d'échecs de l'histoire, enfin contemporaine, s'entend, j'avais toujours l'impression que Garry Kasparov, en tout cas personnellement, c'est celui qui était sinon le plus grand ou en tout cas celui dont on avait le plus entendu parler. Parce qu'il me semble que quand il y avait des grosses compétitions, on le mettait à un moment donné en compétition contre des ordinateurs, des trucs comme ça.
Oui.
J'avais toujours l'impression que Garry Kasparov, c'était the top of the top. Mais là que tu es en train de nous dire que Carlson, c'est quand même le
cas. Le nouveau top of the top, dans le fond. Okay. Mais Carlson a dit qu'il pense que Garry a eu une meilleure carrière que lui aux échecs, si on regarde dans l'ensemble, mais il comprend pourquoi il a reçu le prix, sauf qu'il dit qu'il méritait davantage Kasparov. Mais le titre de meilleure joueuse pour les femmes a été décerné à la grand maître Judith Polgar, la seule femme qui a réussi à rentrer dans le top 10 mondial de tous les temps. Ouais, avec les hommes, là. Et les échecs, ça a été un des premiers défis en matière d'intelligence artificielle, il faudrait le dire. En 1995, IBM, qui n'a pas hésité à investir dans le projet Deep Blue, la seconde mouture en 97, ça a été la première machine qui a battu un champion du monde dans des conditions normales de jeu. Les ordinateurs étaient déjà redoutables dans des parties rapides, mais dans des conditions normales, on donne une heure à peu près, là. C'était la première fois que la machine battait un champion du monde en 97.
C'est probablement pour ça, Deep Blue. Est-ce qu'il n'a pas joué contre Garry Kasparov, me semble-t-il? Je pense que oui. C'est probablement la raison pour laquelle j'avais cette impression que Garry Kasparov était le plus grand joueur d'échecs de l'histoire, justement parce que ça a été tellement médiatisé, entre autres, cette histoire de Deep Blue, d'intelligence artificielle de IBM, que ça a peut-être laissé davantage de traces, on va dire, dans les livres d'histoire. C'est peut-être pour ça aussi, là.
Ben, ça se peut. Ben, Kasparov, c'est encore, comme j'ai dit, selon Magnus Carlsen, il serait le plus grand. Donc, on voit que c'est un des grands. Mais il y a des programmes d'échecs disponibles tellement forts maintenant, là. Crafty, Stockfish, c'est incroyable. Et comparativement aux meilleurs humains, ça a un classement Elo supérieur à 3000, et même quand on les utilise sur des téléphones intelligents. Et un classement supérieur à 3000, je sais pas si tu connais chess.com. C'est une application d'échecs. C'est le site d'échecs le plus populaire au monde. C'est chess.com, un serveur Internet d'échecs. Dans sa version actuelle, il a été créé en mai 2007. Moi, c'est là-dessus que je joue. Tu peux jouer contre quelqu'un de partout sur la planète de ton niveau. Ça clique, tu cliques puis le nombre de temps que tu veux pour chacun, puis ça part tout de suite une partie. C'est vraiment merveilleux pour apprendre les échecs.
Je suis sûr que j'irai faire un tour là-dessus, puis probablement ça dirait, écoutez, il n'y a pas de joueur assez faible pour vous, là.
Non, c'est vraiment ouvert à tous, puis aux débutants, puis c'est vraiment fantastique pour vrai. Puis il y a des puzzles pour apprendre, puis il y a toutes sortes de choses. Il y a moyen d'avoir une version gratuite, puis on peut s'abonner pour plus de services. Et c'est aussi un forum Internet, puis un réseau social, chess.com, parce que tu peux chatter avec le monde, écrire, te faire des amis même, comme sur Facebook. Okay. Des amis avec qui tu peux proposer ensuite des parties, puis tout ça. Il y a une application mobile. En 2023, le site a été considéré comme le serveur d'échecs le plus important, surtout en ce qui concerne le trafic Internet sur la planète. Il organise régulièrement à chess.com des tournois de parties rapides, des bullets, des blitz, où les meilleurs joueurs du monde participent. Donc, tu peux aussi bien te retrouver contre Magnus Carlsen si tu joues sur chess.com. Et dès la fin de l'année 2022, on avait battu des records de fréquentation. On avait revendiqué 100 millions d'utilisateurs. Le 3 mars, l'application avait annoncé un nouveau record chess.com, 2 milliards de parties qui ont été jouées en un mois. Et c'est quelque chose. Et l'entreprise compte plus de 400 salariés. Chess.com sont répartis dans différents domaines d'activité. Il y a des ingénieurs système, des modérateurs, des créateurs de contenu, des responsables marketing. Donc, c'est une grosse, grosse business. Et une série qui a été très, très populaire et qui avait fait exploser les chess.com, les abonnements. Netflix qui avait sorti le jeu de la dame en 2020. Je sais pas si tu as vu ça. Queen's Gambit. Ça, c'est, je te le conseille, c'est la meilleure série là, qui ont sorti sur le jeu d'échecs. C'est vraiment bon. Après 4 semaines, quand c'est sorti, c'était devenu la mini-série la plus regardée sur Netflix, la plus regardée dans 63 pays aussi. Queen's Gambit, donc en anglais, le jeu de la dame en français, c'est l'histoire d'une orpheline prodige des échecs qui s'appelle Elisabeth Armon, qui, au cours de sa quête pour devenir une joueuse d'échecs élite, lutte contre des problèmes émotionnels, la drogue, dépendance à l'alcool. Mais c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bon. L'actrice est quelque chose. Aussi, le titre de la série fait référence à une ouverture d'échecs, le Gambit de la dame. Et l'histoire se déroule au milieu des années 50-60. C'est vraiment bon. C'est Anya Taylor-Joy qui joue l'actrice là-dedans, Elisabeth, puis elle est superbe là-dedans. Et on avait dit que la série reviendrait pour une... deuxième saison. Donc, on pensait qu'elle allait avoir une deuxième saison et c'était un canular. Ça n'a pas été long que l'actrice a dit que son compte avait été piraté. YouTube Teaser Pro avait publié une bande-annonce super crédible, comme quoi il y aurait une deuxième saison de Queen's Gambit. Moi, j'étais tout content, tout fébrile de ça, mais bon, c'est pas vrai. On avait fait un montage des extraits de Pawn Sacrifice avec Tobey Maguire qui ont été assemblés, puis ça a fait une bande-annonce convaincante, mais même si ça a été visionné des millions de fois, c'était pas vrai. Donc, il n'y aura pas de saison 2, malheureusement. Et juste pour terminer, il y a le championnat du monde d'échecs 2024, qui est un match en 14 rondes organisé par la Fédération internationale des échecs qui opposera le champion du monde en titre, Ding Liren, au vainqueur du tournoi des candidats 2024, qui a été l'Indien Gukesh D. Le Chinois Ding Liren, il remet son titre en jeu en 14 parties. Et l'Indien Gukesh a 17 ans seulement, donc c'est le plus jeune challenger du champion du monde qu'il a jamais eu. Il bat le record de Garry Kasparov, justement, dont on parlait, qui avait remporté le tournoi des candidats à 20 ans. Lui, il l'a remporté à 17 ans, l'Indien Gukesh, qui va affronter donc le champion du monde en titre, Liren. Ça va se dérouler du 23 novembre au 14 décembre. La première partie est planifiée pour le 25 novembre. Et ça, ce sera en ligne partout. Vous pourrez suivre le tournoi championnat du monde Challenger.
Alors, amateurs d'échecs, vous en connaissez maintenant l'histoire et vous savez qu'il y a des gens qui sont pas mal plus impressionnants que moi, là, je le dis en toute honnêteté. Si vous me mettez devant un jeu d'échecs, je dis pas que je suis nul complètement, mais mettons que je fais pas très, très bonne figure, on va dire.
Ah, mais c'est ça. Hein. C'est très, l'élite mondiale aux échecs, c'est très, très peu de gens parce que c'est un jeu où c'est difficile de s'améliorer. Ouais. Ça prend énormément d'efforts.
Ça demande beaucoup de stratégie. Et notre stratégie, nous autres, ben, c'est de faire 4 portions de cette émission-là, puis on a terminé la 4e. Alors, on ne peut pas faire autrement que de se saluer.
Ah, ben
la partie est terminée, et puis la semaine prochaine, on va remettre le couvert pour une autre édition de Peu contenir des infos. On souhaite une bonne semaine, Sébastien.
Ben oui, toi aussi, Simon, et à tous ceux qui nous écoutent. Passez une très belle semaine, et on profite de l'automne qui s'installe vraiment.
Absolument. Merci, salut, à la semaine prochaine.